Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi, en direct de 15h à 16h et en direct même avec toujours Jimmy le 11 novembre en jour férié. Vous êtes là dans ce studio, Jimmy, bonjour.
Je me suis rendu compte, bonjour Mélanie, bonjour à tous, je me suis rendu compte que c'est férié, mais je me dis mais on va travailler comme d'habitude, on n'est pas payé double d'ailleurs.
Non, c'est bon, pareil.
On est content d'être là quand même.
Merci Jimmy. Allez, au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, nous allons nous attaquer à un sujet passionnant, les secrets de famille, que nous en soyons les gardiens ou les prisonniers. Ces non-dits, ces silences peuvent pourtant avoir un impact très lourd sur notre quotidien. Mal-être, addiction, douleur inexpliquée ou même surpoids peuvent en être la conséquence, mais heureusement, il est possible de s'en libérer, encore faut-il le faire toujours avec une grande précaution. Alors pour en parler dans le détail, notre invitée ce sera Yvonne Poncet-Bonisol. Elle est psychologue clinicienne et l'auteur du livre « Secrets de famille, ces silences qui nous gâchent la vie » aux éditions Larousse. Ensuite, dans notre chronique « Les bobos du quotidien », aujourd'hui nous vous dirons tout sur le blanchiment des dents. Comment se déroule ce soin esthétique? En combien de temps a-t-on un résultat? Quel est le prix d'un sourire plus blanc que blanc, comme le docteur Jimmy Mohamed? Nous ferons le point. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui avec elle, une histoire de poils de barbe, je ne vous en dis pas plus.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va démarrer par cette question que nous a posée Lucas. On l'écoute.
Bonjour Mohamed, bonjour Mélanie. Oui, je vous appelle parce que je suis en télétravail et en fait, j'ai un tout petit studio, je suis sur mon lit pour travailler avec mon ordinateur, j'ai mal au dos, j'ai mal à la nuque, je ne peux plus. Est-ce qu'il y a des remèdes magiques de grand-mère ou pas de grand-mère? Voilà, merci beaucoup.
Alors, docteur Mohamed, on ne va pas vous poser la question à vous. Pour répondre à cette question qui nous a été posée donc, par Lucas, on a interrogé sur cette question donc spécialiste de la posture, surtout de la bonne posture. On écoute tout de suite la réponse d'un kinésithérapeute. C'est Grégoire, alias Major Mouvement. On l'écoute.
Deux choses. La première chose, privilégier le confort de la position. Il n'y a pas une ou deux bonnes positions, mais qu'une position doit rester confortable. Donc, ça vaut le coup de prendre 5 minutes pour s'installer un vrai poste de travail qui soit confortable et pas le faire à moitié entre le canapé, la chaise de la cuisine et le grille-pain et votre taxe foncière. Et la deuxième chose, ça va être régulièrement depuis la position assise de faire des mouvements. On va venir chercher complètement à enrouler le dos et complètement à redresser le dos. Le mouvement permet d'amener du sang dans les muscles, de vasculariser notamment les articulations et ça fait du bien au cerveau. Et ça prend 30 secondes de venir chercher dans un sens, dans l'autre. Le bon mouvement, c'est un peu celui que vous faites le matin quand vous vous étirez, quand vous venez chercher à mobiliser votre corps dans toutes ses amplitudes. Ça lui fait du bien. Et c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer faire, par exemple, toutes les heures, toutes les deux heures, comme des petites pauses détente.
Allez Jimmy, ça fait une heure là que vous bougez pas, surtout étirez-vous, c'est important. C'était donc le kiné Grégoire alias Major Mouvement. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous ses bons conseils sur sa chaîne YouTube. Alors on va passer à la deuxième question d'auditeur. Une question d'auditeur cette fois qui nous est posée par Marc, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai lu ce matin qu'on avait trouvé un vaccin contre le coronavirus. Est-ce vrai? Si c'est vrai, est-ce qu'on est tiré d'affaire du coup? Merci pour votre réponse.
Bon, tiré d'affaire, je pense que on va tout de suite se calmer, Jimmy, je pense. Donc effectivement, il y a eu cette annonce il y a deux jours maintenant des laboratoires Pfizer. Un vaccin efficace à 90%. Est-ce qu'on a des raisons de se réjouir, Jimmy?
Oui, parce que ça reste une bonne nouvelle.
Et, dans et on en a besoin en ce moment.
Trop, on a besoin de bonnes nouvelles, d'autant plus que pour se débarrasser du virus, soit on va atteindre l'immunité collective, 60 à 70% de la population qui va contracter le virus avec des séquelles, des conséquences et des morts, ou bien un vaccin. Et donc peut-être que la sortie de crise sera définitive grâce à un vaccin lorsqu'il sera disponible.
Grâce à un vaccin, effectivement. Qu'est-ce qu'il montre précisément? Alors, se communiquer, parce que ce n'est pas encore une étude publiée dans une revue scientifique, de façon académique, revue par leur pair, etc. C'est quoi, là, aujourd'hui?
Alors,
on a quoi comme résultat?
C'est un communiqué de presse, donc évidemment qu'il y a comme une étude derrière, mais pour l'instant, on n'a pas accès à cette étude. Ça nous parle d'un vaccin efficace à 90%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on vaccine 10 personnes et qu'on les expose toutes au virus de façon massive, eh bien, il y a simplement une personne sur 10 qui va développer le virus. Les 9 autres vont être protégés. Donc, c'est pas mal.
Ça, c'est bien.
C'est source d'espoir parce qu'on espérait 60-70%. Donc là, 90, c'est une très bonne chose. Mais c'est 90% à un mois. Donc, ça veut dire
un mois après l'injection.
Il faudra certainement deux injections avec peut-être une espèce de boost, un rappel. Donc pour l'instant, on n'a aucune idée sur l'efficacité sur le plus long terme. Est-ce que ça va protéger aussi les personnes âgées, celles qui vont faire des formes graves? Est-ce que lorsque vous avez la maladie, vous allez éviter de faire une forme grave? Donc il y a encore énormément d'interrogations. Le protocole est encore en cours d'expérimentation. C'est une étape intermédiaire, donc on a la moitié du chemin. Même si, il faut être honnête, c'est très encourageant.
Est-ce que d'ailleurs, on a des données, parce qu'il y a beaucoup de question aussi autour de la tolérance de ce vaccin. Là, on sait que bon, est efficace à 90%, mais est-ce que, je sais pas, il y a des effets secondaires? Est-ce qu'il est sûr, ce vaccin?
Pour l'instant, on ne sait pas. C'est tout le rôle d'un essai de stade 3. C'est dans une période dans laquelle on va tester sur beaucoup de monde l'efficacité et chercher à connaître la tolérance. Quels sont les effets secondaires que le vaccin peut procurer? D'autant plus que on est dans un pays pour lequel la vaccination est un peu réfractaire.
Il y a beaucoup de réticence.
Il y a beaucoup de réticence. Donc, c'est pas dit qu'on se vaccine. Donc, on a besoin d'avoir toutes les données d'efficacité et de sécurité pour pouvoir le proposer en toute conscience et pour enfin sortir cette crise.
Il y a une étude sur l'acceptation d'un éventuel vaccin Covid en France. On est
à 50%.
Seuls 50% de la population serait d'accord. Hein,
50% serait d'accord si on avait un vaccin, contre 80% pour les Anglais par exemple et 70% pour les Allemands.
Bon, à suivre. Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Marc qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en ligne avec nous notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, Yvonne Poncet-Bonisol. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes psychologue clinicienne, spécialiste Bonjour. Des relations familiales et également l'auteur du livre « Secrets de famille, ces silences qui nous gâchent la vie » aux éditions Larousse. Alors d'abord, on va reprendre du début. Hein. Qu'est-ce qu'on entend vraiment par secret de famille? Est-ce que ça peut être parfois des choses même qui remontent finalement très loin à plusieurs générations et que même nous, on n'a pas entendu parler et qui nous gâchent la vie?
Alors, bien sûr. D'abord, un secret de famille, c'est une vérité qui n'est pas dite, c'est une vérité non dite. Et parce que quelque chose n'a pas pu se dire, n'a pas pu se montrer, en tout cas, n'a pas pu se représenter. Il faut, pour cela, 3 générations pour créer le secret de famille. La première génération, c'est celle qui vit le traumatisme, qui refuse d'en parler et qui cherche absolument à le cacher pour maintenir finalement une belle façade familiale, pour garder le mythe de la famille idéale. La deuxième génération sait vaguement qu'il s'est passé quelque chose, mais elle ne sait plus quoi, donc il n'y a pas de mots pour le dire. Et donc là, on est plein d'imagination, on s'imagine, on ressent quelque chose, mais finalement on passe à autre chose. Et c'est à la troisième génération que ce secret qui a été fabriqué à la première génération devient toxique. Il ne peut plus être pensé et pourtant il y a des conséquences. Alors parfois des angoisses, des prises de poids, des maladies physiques, des dépressions, des angoisses, enfin quelque chose qui est troublante. Et bien souvent, quand un enfant consulte, eh bien, on a tendance à aller voir du côté de ses grands-parents. Qu'est-ce qui s'est joué là? Qu'est-ce qui n'a pas pu se dire? Mais bien sûr, ce n'est pas tout. Parce qu'il est vrai que le secret de famille est produit par la honte et la culpabilité. Il se veut protecteur pour ses descendants. Et se voulant protecteur, eh bien, parfois, il produit l'inverse, c'est-à-dire des effets toxiques sur notre personnalité et sur notre être.
Pourtant, le secret, de façon générale, on a l'impression que c'est important pour notre construction. C'est normal d'avoir des secrets, notamment pour protéger les enfants, non ?
Alors, il y a plusieurs secrets. Alors, il y a les secrets, on pourrait dire les secrets de plomb et les secrets de plume. Les secrets de plomb, c'est ceux qui touchent à notre identité, c'est-à-dire à nos origines. Enfants adoptés, enfants adultérins, mort d'un enfant, non dite. Enfin, tout ça qui pourrait toucher à finalement qui on est. Et il y a les secrets de ce qu'on a fait. C'est-à-dire, ça peut toucher les conduites addictives d'un grand-parent, ça peut toucher à ses escroqueries, ça peut toucher à quelque chose de honteux, mais au niveau des actes. Et c'est vrai qu'on ne peut pas tout dire, parce que je crois qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans la dictature de la transparence. Et
j'allais
tout
vous dire, Yvonne, là on parle de ces choses dont on ne parlait pas finalement dans l'ancien temps, l'homosexualité, les divorces, les enfants nés hors mariage, mais aujourd'hui, quand même, on a levé certains tabous. Il y a toujours autant de secrets de famille à notre époque ?
Non, beaucoup moins. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus fluide. Et pourquoi les secrets provoquent une forme de fluidité? Parce que le secret plombe la communication. On a des comportements de mal-être qui font que, au fond, eh bien, l'enfant n'arrive pas à décrypter pourquoi on est ainsi, pourquoi on a des comportements un petit peu bizarres, comme l'inquiétante étrangeté, comme disait le père Freud. Eh bien, aujourd'hui, les secrets sont beaucoup plus levés. On n'est plus du tout dans cette dimension qui est plombante. On sait beaucoup plus d'ailleurs par rapport aux origines. On sait qui on est, même quand il y a finalement des fécondations in vitro. On ose dire comment on a été conçu. Enfin, les choses sont quand même beaucoup plus déliées.
Bon, du côté génétique, en tout cas, c'est parce qu'il y a aussi des tests qu'on peut faire maintenant pour 3 francs 6 sous sur Internet qui permettent
l'ADN,
aussi de lever le voile facilement. Jimmy ?
L'adage dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et justement, en ce qui concerne les secrets de famille, ça peut s'imprimer physiquement avec de vrais symptômes sur le gardien du secret.
C'est
ou
le docteur
sur les victimes.
Qui parle là, attention. Oui.
Qu'est-ce qu'on peut avoir justement comme symptômes?
Ah oui, cher docteur, eh bien effectivement, tout ce qui ne se dit pas s'imprime. Il est vrai que quand on ne peut pas élaborer, quand on ne peut pas dire, eh bien les choses qui sont stockées, eh bien créent des formes de malaise, des angoisses, des idées noires, des cauchemars. Et j'ai par exemple, pour exprimer cela, l'histoire d'un petit garçon qui, d'une manière récurrente, avait des cauchemars. Ça m'a beaucoup troublée, donc je me permets de vous le signaler. Il rêvait constamment qu'une personne sans tête venait le voir, donc il était complètement angoissé, il n'osait plus aller à l'école, il était mais fragilisé par ses visions nocturnes cauchemardesques. Et puis quand on a beaucoup travaillé, un jour, sa maman me dit, je viens d'apprendre quelque chose, c'est que son grand-père avait été victime de j'ose pas le dire, parce que c'est un peu traumatisant pour les enfants, mais d'une forme de décapitation pendant la guerre d'Indochine. Et donc, eh bien, finalement, ce grand-père...
Et il n'en savait rien, lui, on est d'accord. Alors, on ne lui avait pas parlé de ça.
Et lui n'en savait rien. Et la mère non plus, mais il y avait quelque chose de confus, de non-dit. Et ça, c'est dès lors qu'il a appris que son grand-père était mort comme cela, ouh, ça l'a soulagé. Donc ça, j'ai vu vraiment une forme de, quand c'est exprimé, cette forme de libération, mais vraiment immédiate, et les cauchemars s'en sont allés. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres qui sont assez impressionnants. Donc c'est vrai que souvent, ce qui ne se dit pas d'important, de ce qui ne se dit pas de honteux, a tendance à s'imprimer.
Et Yvonne, vous disiez tout à l'heure que c'est souvent la honte et la culpabilité qui sont finalement souvent le terreau d'un grand nombre de secrets de famille. Et surtout, ce qui vient entacher, vous disiez, l'image d'une famille parfaite ou le statut social, c'est ça ?
Ah oui, alors quand on touche au mythe social, c'est-à-dire à l'image, par exemple, on n'avoue pas un enfant adultérin. On n'avoue pas non plus une escroquerie, on n'avoue pas quelque chose, les faillites, le chômage, les dettes, les pertes de jeu. Donc le premier secret, c'est bien souvent des générations antérieures, les divorces, l'infidélité, l'abandon. Le deuxième secret, c'est parfois, qui est aussi très important, l'inceste, la violence. Le troisième, ça touche à la façade de la famille, la façade sociale, à savoir son standing, ses faillites, ses dettes de jeu, comme je vous l'ai dit. Et le quatrième mythe, c'est finalement toutes les conduites déviantes d'un grand-parent, d'une grand-mère. Ça peut être des violences, pas des meurtres, mais des emprisonnements, des viols, des vols. Et puis le cinquième mythe, c'est la normalité, c'est-à-dire ça touche au comportement, c'est-à-dire l'alcoolisme, la toxicomanie, la dépression et le suicide. On
Jimmy,
dit bien souvent qu'il y a des formes de suicide qui se répètent.
Est-ce que ces secrets, forcément, vont impacter l'estime de soi ou sa vision de la famille? Parce qu'on peut le comprendre pour des choses graves, mais si papy a ruiné tout le monde, est-ce que forcément ça peut nous impacter? Est-ce qu'on peut tout juste simplement pas faire avec?
Eh bien, on peut faire avec, mais bien souvent, quand papy a eu une grosse faillite ou a raté beaucoup de choses, on se demande pourquoi, au niveau de ses examens, on a tendance à rater des examens successivement. Ça, j'ai vu dans ma pratique. Donc, un ratage au niveau de professionnel peut engendrer d'autres échecs ailleurs. Donc, une fois que c'est dit et qu'on banalise l'échec, tout peut rentrer dans l'ordre. Mais bien sûr qu'on peut souvent faire avec, mais pas toujours. Tout dépend de la sensibilité de l'individu.
Alors Yvonne Poncet-Bonisol, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité aujourd'hui, c'est vous, Yvonne Poncet-Bonisol. Vous êtes psychologue spécialiste des relations familiales et l'auteur du livre dont on parle aujourd'hui. Son titre, c'est « Secrets de famille, ces silences qui nous gâchent la vie » aux éditions Larousse. Alors Yvonne, un sujet passionnant, et vous dites dans votre livre que parfois aussi, on crée un secret de famille, on se tait par amour pour ne pas faire souffrir sa descendance. C'est le cas par exemple des traumatisés de guerre, pour ne pas causer de choc à leurs enfants par exemple, c'est compréhensible.
Alors on voit effectivement justement là, c'est pas trop un secret parce qu'on fait du coup la différence entre un secret de famille qui vous plombe et le non-dit qui est fabriqué par la souffrance. Pourquoi on veut protéger ses descendants, on veut protéger de la souffrance qu'on a vécue, de ce traumatisme. Et il est vrai que les grands-parents et les parents qui ont vécu la guerre et qui ont eu des vraies souffrances, eh bien se taisent. Les victimes de traumas de guerre, de génocide, refusent de parler pour ne pas, d'une part, pas revivre leur douleur et surtout ne pas faire vivre cette douleur à leurs descendants. Et quand justement cette douleur s'est un peu apaisée au fil du temps, on peut en parler comme d'une histoire pour que finalement la mémoire soit toujours intacte. Mais bien souvent, ces non-dits ont comme but la protection de sa descendance.
Dans votre livre, Yvonne, vous dites aussi que tout ce qui ne se dit pas remonte toujours à la surface et par exemple grâce à l'intuition. Et vous donnez l'exemple de Marianne, persuadée que sa fille a été échangée à la naissance, mais en fait, c'était elle la victime d'un secret.
Exactement. Donc effectivement, le secret de famille fonctionne un petit peu comme un petit ruisseau souterrain qui peut émerger à l'occasion d'une naissance, à l'occasion de sa maternité. Et effectivement, avec un mécanisme qu'on connaît bien en psychanalyse et en psychologie, c'est la notion de projection. On attribue à l'autre bien souvent ce qu'on a vécu soi. Marianne, effectivement, avait été une enfant dont le père biologique était inconnu et elle avait toujours l'impression que sa fille avait été changer à la maternité. Or, à la mort de sa mère, eh bien, se rend compte qu'effectivement, c'était elle qui avait un problème par rapport à son identité biologique. Et donc, elle attribuait ça à sa fille. Ça, c'est hyper fréquent. Donc, on trouve ça aussi ça remonte par rapport à des histoires toutes simples, comme un prénom. Une histoire très, très, très symbolique. Une jeune femme qui s'appelait Bénédicte n'arrivait pas à tomber amoureuse. C'était après une histoire très compliquée. Donc, on avait beau travailler sur cette solitude qui l'envahissait depuis de nombreuses années. Et d'un seul coup, elle se rend compte, je l'interroge sur un petit peu son entourage familial et elle me parle d'une de ses tantes qui était devenue bénédictine. Or, elle s'appelait Bénédicte. Et donc, cette bénédictine, eh bien, était rentrée dans les ordres après une première relation amoureuse, défaillante et douloureuse. Eh bien, cette Bénédicte, du coup, n'arrivait plus à tomber amoureuse. Elle a fait le lien et depuis, eh bien, elle vit le grand amour. Après six mois après cette révélation, elle est tombée amoureuse. Donc, vous voyez, ça arrive d'une manière... On ne s'y attend pas, mais vous voyez très bien, ça peut immerger. C'est comme un petit ruisseau, pof, une petite source qui arrive à la surface un jour. On ne sait pas comment.
Yvonne, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'on peut être finalement perturbé par quelque chose dont on n'a jamais entendu parler. C'est justement parce qu'on nous a caché quelque chose qu'on est devenu peut-être, plus curieux, qu'on a développé une intuition très, très, très fine. Enfin, c'est en lien avec ça. On devient une espèce d'enquêteur dès la naissance parce qu'on a été victime d'un secret. Oui, c'est ça.
Et une imagination débordante. Mais tout le monde n'a pas la même appréhension du secret. Il faut être sensible, il faut être une éponge. Et bien souvent, les enfants qui sont de véritables éponges et d'une grande sensibilité sont toujours à l'affût de qu'est-ce qui manque. C'est comme si ils étaient donc face à un tableau et il manquait une pièce. Ils sont toujours à la recherche de cette pièce qui leur fabrique finalement des troubles divers et variés. Mais ils vont comme un explorateur à la recherche de ce qui leur a manqué. Et ils sentent confusément, ils ont l'intuition de cela.
Et puis Yvonne, les secrets de famille ne se contentent pas de marquer les descendants, ils peuvent aussi créer des répétitions impossibles d'arrêter, notamment en ce qui concerne les schémas amoureux. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Eh oui. Ah oui, alors bien souvent, on reproduit des schémas amoureux à son insu, des schémas qui sont douloureux, des malédictions amoureuses, vous voyez, comme les Kennedy, par exemple. Mais dans les relations amoureuses, on répète bien souvent un lien qu'on a vécu ou que nos parents ont vécu. On reproduit ce schéma et la répétition a pour but, quel but ? Eh bien, de comprendre enfin la vérité. Et la répétition est toujours là sur notre chemin pour nous donner des indices et pour avancer. Et ça, c'est très intéressant. On reproduit bien souvent, effectivement, des schémas amoureux de nos ancêtres.
Et d'ailleurs, Yvonne, les spécialistes de la psychogénéalogie évoquent même, dans le cas des secrets de famille, le syndrome d'anniversaire. C'est quoi ça ?
Alors, c'est le syndrome de la date anniversaire. On reproduit des événements à son insu, à la date anniversaire de la mort ou de la naissance. Par exemple, les enfants de remplacement, on dit des enfants de remplacement parce que ils naissent après un enfant décédé, parfois à la même date, jour pour jour. Ça, ce sont le syndrome de la date anniversaire. Et ça, c'est les dates sont aussi hautement symboliques dans l'émergence des secrets.
Et donc ça veut dire qu'on peut transmettre une haine, par exemple, envers les hommes, ou l'appétit pour les histoires sans lendemain, sa descendance, même sans dire de mots, ça peut être contagieux, les secrets de famille, un peu comme un virus ?
Bien sûr. Alors, oui, mais parce que finalement, ça se transmet d'inconscient à inconscient. Ou alors, vous savez, maintenant, avec l'épigénétique, on se rend compte que certains traumatismes, certaines choses se transmettent d'une manière très délicate dans nos gènes. Enfin bon, ça, c'est encore à expérimenter. Il n'y a pas trop de preuves de cela. Mais en tout cas, c'est très troublant, cette répétition de schémas, alors qu'on n'en est pas conscient.
Et vous disiez un petit mot sur l'épigénétique, justement, c'est quoi ça ? Ça veut dire que même biologiquement, finalement, les secrets de famille, on pourrait se les transmettre ?
Alors, certains traumatismes, il s'est avéré que certains traumatismes s'inscrivent dans une forme de génome. D'ailleurs, in utero, on a découvert que in utero, les enfants ressentaient les émotions, les traumatismes de la maman. Et donc, ça pourrait participer finalement à une sorte de climat du secret, du climat de la non-communication. Quand il y a non-communication dans une famille, c'est bien souvent que des choses n'ont pas été dites, il y a du non-dit.
Et vous parlez aussi de l'explication notamment avec les neurones miroirs qui pourraient être une piste.
Ah oui, les neurones miroirs, c'est-à-dire qu'on ressent en l'autre quelque chose qui nous appartient. On a une forme d'excès d'empathie. Ça, c'est passionnant, les neurones miroirs, surtout dans notre construction amoureuse. On reconnaît systématiquement en l'autre quelque chose de l'ordre du déjà connu, du déjà vu. Ça, tout le monde a vécu ce genre d'expérience. Et les neurones miroirs, on voit combien, grâce à eux, on peut aller à la recherche de notre histoire, de notre propre histoire. C'est l'autre qui vous renvoie quelque chose.
Yvonne Poncet-Bonisol, on va faire une courte pause et on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec notre invité en ligne avec nous aujourd'hui, c'est vous, Yvonne Poncet-Bonisol. Vous êtes psychologue clinicienne et l'auteur du livre « Secrets de famille, ces silences qui nous gâchent la vie » chez Larousse Édition. Alors à présent, Yvonne, on va passer à la partie peut-être la plus importante. Pour aller mieux en tout cas, il faut s'en libérer de ces secrets. Comment on brise le silence ? Alors bien sûr, hein, chaque cas, chaque histoire est différente. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est presque toujours risqué quand même de briser un secret de famille. Il faut y aller mollo.
Ah ben déjà, il faut faire en sorte que l'autre soit prêt à l'entendre, parce que sinon ça fonctionne comme une bombe terrifiante. Donc, mais là j'ai un exemple que j'ai vraiment envie de vous citer, qui date d'hier. Une patiente qui a eu sa maman qui s'est suicidée en brûlant sa maison, enfin bon. Et donc, son mari, il y a 15 jours, voulait brûler une mèche de cheveux. Elle lui dit non, surtout pas. Alors personne ne comprenait pourquoi, et elle était figée, et là, c'est là qu'elle a enfin pu dire à ses enfants comment sa mère était décédée, et comment finalement elle avait des réactions parfois disproportionnées, et tout s'est expliqué, tout ça a été dans le calme, et elle s'est sentie libérée, et les enfants du coup, ils ont finalement aussi eux été libérés parce qu'ils comprenaient pas certains comportements étranges.
C'est un blocage, et oui, bien sûr.
Un blocage. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Elle culpabilise moins de ses réactions et elle s'autorise à avoir des débordements débordements. Donc, elle est moins enfermée dans ce secret qu'elle ne pouvait dire. Donc, vous voyez, alors, le secret peut se révéler d'une manière inattendue, comme cet exemple, mais aussi, il peut se révéler, normalement, il doit se révéler d'une manière un peu douce et surtout pas au téléphone ou surtout pas sous le coup de la colère, oui, et encore moins, bien sûr, à la fin de sa vie. Mais il faut surtout donner du temps au temps pour le révéler et le faire peut-être par petites touches. Sauf que quand il devient trop douloureux, il peut jaillir comme ça et on n'arrive pas à le contrôler. Et alors, la meilleure façon, c'est peut-être de le dire à un tiers avant pour que finalement, il soit dévitalisé de sa charge émotionnelle et qu'on puisse le dire d'une manière sincère, mais avec moins cette charge émotionnelle qui risque de fragiliser encore plus celui à qui il était destiné, qui ne pouvait pas encore bien l'entendre.
Et puis peut-être se poser la question de pourquoi révéler le secret ? Est-ce que c'est dans le but de soulager sa propre douleur ? Ou peut-être aussi pour les autres, il faut peut-être faire l'état des lieux en quelque sorte avant cette révélation ?
Alors je pense qu'effectivement il faut faire l'état des lieux avant la révélation, parce que la révélation ne guérit pas tout. La révélation est une étape dans la compréhension, mais il faut le dire par exemple, il faut le dire très tôt concernant sa filiation, par exemple pour tous les bébés qui sont nés d'une fécondation in vitro,
qui sont adoptés, tout simplement leur dire.
Ou adopter, il faut leur dire très très tôt, parce que vous êtes délesté, c'est plus une charge, et automatiquement la communication est meilleure, on n'est plus obsédé par dois-je lui dire ou pas lui dire.
Mais quand vous dites très tôt, c'est à quel âge ? Parce que c'est à trois jours, ça ne comprend pas grand-chose, hein, bébé.
Non, mais ça ne comprend pas, mais vous êtes dégagé de ce secret. Donc c'est beaucoup plus fluide après, et à un moment donné, à l'adolescence, ils peuvent dire « Tiens, et c'est quoi la fécondation in vitro ?» Et là, ils sentent qu'effectivement, ils ont pu être ainsi conçus, mais la charge émotionnelle est moins grande pour celui qui détenait ce secret.
Ben, on comprend, Yvan, justement, dans la question de la filiation, que révéler ferait du bien à tout le monde, mais dans d'autres secrets, lorsqu'on dit la vérité, eh bien, on veut se soulager d'un poids, donc c'est un peu égoïste, d'autant plus que la franchise, elle peut blesser les autres. Et parfois, c'est peut-être mieux d'être dans l'ignorance, non ?
Alors la franchise, c'est un acte très égoïste, c'est-à-dire qu'on se déverse sur l'autre, c'est très juste. Mais en revanche, quand à l'occasion finalement de dysfonctionnements, comme je vous ai évoqué tout à l'heure, des échecs à répétition, des angoisses inexpliquées, ça on peut essayer de travailler ensemble, c'est-à-dire on fait un travail de décryptage, mais ensemble, en famille. Et bien souvent, certains secrets, on peut raconter les faits, mais éviter les détails. Ouais. Donc, par exemple, on peut dire que la maman est décédée parce qu'elle avait un cancer à l'âme, elle avait un cancer du cœur, elle voulait plus vivre, des choses comme ça. Il faut imaginer. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Rentrer dans les détails.
Donc dire, ça, mais sans tout dire non plus. Et justement, Yvonne, cette question de tout dire, elle se pose souvent vis-à-vis des enfants, des jeunes enfants avouer, je ne sais pas, que son père n'est pas son père, qu'il a eu un frère aîné qui est mort avant lui, que sa maman a été violée quand elle était jeune. Je prends des exemples un peu forts, hein, mais oui, ça peut traumatiser un enfant. Quel conseil vous donneriez ?
Alors, ne pas le dire tout de suite, mais attendre qu'il soit prêt à l'entendre.
Et c'est comment on sait ça, qu'il est prêt ?
Eh ben, il se pose des questions sur, par exemple, il s'interroge sur ses petits camarades. T'as vu, son père a fait ci, sa mère a fait ça. Il s'interroge à l'environnement familial de ses camarades de classe. C'est bien souvent par là que transpire finalement le secret qui l'anime.
Et vous écrivez que c'est souvent à la quarantaine que les non-dits, les secrets sont révélés.
Oh là là, pourquoi vous approchez de la quarantaine, non, Jimmy ? Ah non,
oui,
vous êtes un peu loin encore.
Ans,
mais oui, la quarantaine, c'est pas le démon de midi, mais c'est un petit peu cette âge charnière.
Alors moi, c'est dans 3 ans, je vous écoute, hein, attentivement.
Où on n'a pas du tout envie d'être encombré par ce qui nous appartient pas. Donc, on est dans une phase de transition. C'est cette fameuse phase d'individuation où on veut se débarrasser de tout et on a envie d'être bien avec soi et on a envie effectivement d'éliminer tout ce qui avait pu être des zones d'ombre dans notre vie. On est à l'appel, on a une forme de soif, de lumière et on n'est plus dans cette phase d'accommodation où on a envie de répondre à l'autre, de faire plaisir à l'autre. On veut se débarrasser de ce qui ne concerne pas, c'est-à-dire on veut être libre.
Donc c'est pour ça. Vous donnez dans votre livre ce conseil, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais quand on a un secret à révéler, un silence à briser, peut-être il ne faut pas commencer par le premier concerné, vous disiez. Ça veut dire que quoi ? Il faut commencer par en parler peut-être avec un psy ?
Alors, un psy ou quelqu'un de notre entourage, il faut se délester effectivement de la charge émotionnelle qu'il y a autour du secret.
Et ça, on le fait avec un tiers qui n'a rien à voir avec ce secret, c'est ça,
un
c'est
tiers.
Mieux. Hein,
ouais. Oui, un tiers. Du coup, on est un peu délesté, on a fait un premier pas, et après, pour le révéler, on peut scénariser. Il faut que ce soit dans une ambiance un peu chaleureuse, soit au restaurant, soit dans un... Mais surtout pas d'une manière violente, parce que sinon, ça fait règlement de compte, et le secret, là, il est... La révélation du secret peut avoir des effets délétères.
Et enfin, Yvonne, quand le secret concerne plusieurs personnes qui sont elles aussi gardiennes du secret, mieux vaut les prévenir avant la révélation ?
Ah oui, parce que quand quelqu'un... Ah oui, tout à fait. Et surtout, ils ont l'impression d'avoir été trahis dans la mesure où tout le monde le savait sauf moi. Donc, on a l'impression d'être impuissante, d'avoir été hyper protégée et de ne pas être, avoir été suffisamment digne d'avoir pris connaissance de ce secret.
Mmh. Yvonne, dernière chose, une fois que c'est fait, que le silence a été brisé, qu'on a bien suivi tous vos conseils pour que ça se passe au mieux possible, est-ce que c'est immédiat l'apaisement, la guérison en général ? Vous avez eu des patients, vous, ben, ça se passe comment dans la majorité des cas, on va dire ?
Dans la majorité des cas, la première réaction, c'est ouf, un apaisement et un soulagement. La révélation soulage, mais ne guérit pas. Ça, je crois qu'il faut absolument insister là-dessus. Après, c'est un véritable travail, je dirais pas analytique, mais un travail à la découverte de son histoire. Il faut plonger dans le voyage de son histoire et puis faire des interactions entre ce qu'on vit dans l'actualité et qui pourrait venir du passé. Et quand on décrypte ça, quand on va à l'origine de nos comportements actuels et savoir pourquoi on agit ainsi, là, finalement, la guérison peut se mettre en place. Mais la guérison, comme disait Freud, elle vient de surcroît et certainement pas tout de suite lors de la révélation.
Merci beaucoup Yvonne Poncet-Bonisol d'avoir été en ligne avec nous cet après-midi. Merci pour cet éclairage sur ce sujet sensible. Alors pour ceux qui voudraient en savoir plus, je rappelle le titre de votre livre, « Secrets de famille, ces silences qui nous gâchent la vie » chez Larousse Éditions. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi encore. Alors il est temps à présent de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on va parler que notes avec cette question de Roxane. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Je vous appelle, j'ai une petite question. J'aimerais avoir les dents blanches. Du coup, je voudrais savoir quels sont les aliments ou autres qu'il faut éviter, qu'est-ce que je pourrais faire pour blanchir davantage mes dents, et puis une idée du combien ça coûte. Merci.
Jimmy, alors bon, même si en ce moment les dents blanches, c'est peut-être moins un souci pour les gens, mais bon, pour Roxane, oui, donc on va lui répondre évidemment. C'est vrai qu'on est masqué tout le temps, donc les dents finalement, mais bon, c'est peut-être aussi le moment de s'en occuper justement, s'il y a un chantier à faire et c'est caché, donc on va y aller. On va parler donc de ce blanchiment des dents. Jimmy, d'abord, avant de commencer la procédure, je crois que de toute façon, il faut faire un contrôle, une visite chez le dentiste, quoi qu'il en soit, pour savoir si tout va bien.
Oui, on commence toujours par une visite chez le dentiste et on fait toujours le blanchiment dentaire chez le dentiste, puisqu'il va faire un peu l'état de vos dents, le bilan bucco-dentaire, puisque avant de faire ce blanchiment, il faut s'assurer de deux choses. Un, que vous n'avez ni caries, deux, ni maladie de la gencive, puisque si jamais vous avez une carie et que vous commandez des petits produits sur Internet,
vous allez douiller.
Ce qui va se passer, c'est que le produit va pénétrer au travers de la carie et les risques de dévitaliser et de tuer votre dent. Même chose, si jamais vous avez une gingivite, l'inflammation de la gencive, et que vous prenez ces petits trucs que vous achetez ou des influenceurs veulent vous vendre, eh bien vous allez aggraver l'inflammation et donc ça va conduire au déchaussement dentaire. Donc on commence toujours par un contrôle chez le dentiste. Il pourra lui débuter par un petit détartrage qui permet de polir et d'enlever les dépôts superficiels sur la couche externe de la dent qui parfois ont tendance à être un peu teintées, notamment lorsqu'on ne se brosse pas bien les dents et que du tartre s'accumule.
Donc ok, on fait un détartrage et alors après c'est parti pour le blanchiment. Ça marche vraiment pour tout le monde, même pour les dents vraiment très 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 colorées, jaunâtre et tout ça. Ça va fonctionner là-dessus aussi ?
Alors,
non,
ne me
regardez
dépend.
Pas comme ça, moi j'ai des dents parfaites. Donc
non, mais parfaites.
Elles sont cachées.
Mais on ne les voit pas, c'est surtout ça. Alors parfois, lorsqu'on a des dents qui sont très tachées, notamment liées à la prise de certains médicaments, ça va entraîner ce qu'on appelle une dyschromie. Et donc à ce moment-là, le blanchiment dentaire peut être insuffisant et on va devoir utiliser des techniques plus performantes comme les facettes en céramique, okay. Mais ça reste un cas particulier.
Alors le blanchiment, maintenant ça se fait de moins en moins, comme on dit nous, au fauteuil, c'est-à-dire pas chez le dentiste, ça se fait en ambulatoire finalement. Comment on procède ?
Donc vous allez chez le dentiste, il vérifie que tout va bien, et ensuite il va vous faire ce qu'on appelle une empreinte dentaire pour vous fabriquer des gouttières qui vont être formées en polyéthylène, qui vont être adaptées à votre dentition. Vous repartez avec une photo témoin pour le avant-après.
Bien sûr, ça fait trop
plaisir. Et puis à ce moment-là, on continue la suite du traitement.
Alors les gouttières, une fois qu'elles sont fabriquées, ça va se passer comment chez moi ?
Ah bah, il vous donne un petit coffret qui va contenir des seringues, du peroxyde d'hydrogène qui est finalement ce qui va blanchir les dents. Vous allez mettre tous les jours ce produit dans la gouttière que vous allez devoir porter 2 à 3 heures par jour. L'idéal, c'est de le porter la nuit.
Oui, c'est sûr.
Puisque vous limitez la salive qui va inactiver le produit. Et on fait ça durant environ 15 jours, 3 semaines, parfois un peu plus longtemps lorsqu'il y a beaucoup de travail. Je crois que pour vous, Mélanie, ce sera un peu plus que 2-3 semaines.
J'étais sûr qu'il allait faire un petit commentaire sympathique. Alors, Jimmy, les résultats, on les voit au bout de combien de temps ? Parce que vous avez dit, bon, 15 jours en moyenne, c'est gouttière, voire jusqu'à 6 semaines maximum, en fonction du chantier, comme chez vous. Donc, du coup, c'est que les résultats, je les vois quoi ? Un jour, deux jours,
ouais,
trois
dès
jours.
Le 2-3e jour, vous pouvez voir une apparition. Et donc, au bout de 15 jours, de toute façon, vous faites un contrôle chez le dentiste pour vérifier que tout s'est bien passé. Et en règle générale, le niveau de satisfaction est très important. Et tout le monde est content.
Bon, réponse, question qu'elle posait aussi, cette auditrice Roxane, dans sa question. Je me mélange un peu les pinceaux. Combien ça coûte ?
Ça coûte, ça dépend des cabinets, entre 500 et 1000 euros. Ce n'est pas remboursé par l'assurance maladie. Et dernier conseil, elle demandait quel aliment il fallait privilégier. Oui. En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est, si vous êtes amateur de café ou de thé, c'est de vous rincer la bouche après
chaque utilisation.
C'est vrai qu'on
n'y pense jamais à faire ça, mais...
Regardez un café qui n'a pas été... Rincez un verre,
et
bien il y a des dépôts.
Oui.
Et bien ces dépôts, vous allez les retrouver sur vos dents. Donc rincez-vous la
Parce
bouche.
Ce que vous faites toujours, vous buvez un café,
mais
vous rincez la bouche derrière.
Et
évidemment.
D'ailleurs, quand les bars étaient ouverts et les cafés, vous savez, le garçon de café venait toujours un petit verre. Et donc c'est peut-être le premier dentiste de France, sans le savoir.
J'avais jamais pensé à ça, c'est très bien. Donc on accepte toujours le petit verre d'eau avec le café quand les cafés rouvriront.
Et on
bien
donnera
sûr.
Un petit pourboire.
Allez, avec plaisir.
Faites
Merci beaucoup, Jimmy, pour cet éclairage.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h pour cette ultime séquence de l'émission. Nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on a une question d'Alexandra, je vous la lis tout de suite. Depuis que mon mari s'est laissé pousser la barbe, ça me pique lorsque je l'embrasse. Cela m'agace alors que lui pense que je ne veux plus l'embrasser. Que faire ? Alors Catherine, c'est très pratique comme question. Est-ce que c'est fréquent dans les couples ? Je trouve ça bon. Il n'y a pas de mauvaise question, mais se disputer pour ça, c'est pas bien grave, non ? Enfin, je sais pas.
Non, c'est pas bien grave. Maintenant, ce qui est amusant, c'est que la barbe, fondamentalement, c'est un poil qui est assez doux, à condition, bien sûr, qu'il soit peut-être que quand il est court, il est un peu plus douru, mais sinon, il est assez doux. Donc, ça pose plutôt la question du rapport qu'elle a avec, justement, ce chatouillis que cela provoque, ce dérangement que provoque l'autre. Et ça me semble être plutôt... une occasion de dire autre chose.
C'est voilà l'arbre ce que qui cache dire. La forêt, peut-être.
Voilà, c'est-à-dire qu'on peut ne pas aimer les barbes, on ne peut ne pas aimer cette sensation, et auquel cas on dit tout simplement à son mari, écoute, je préfère,
Rase-la,
j'aime pas.
Et puis c'est tout.
Voilà, et on ne fuit pas le baiser au prétexte qu'on n'aime pas quelque chose. On dit tout simplement pourquoi on a du mal à se baiser, parce que c'est dérangeant. Mais à partir du moment où on ne le dit pas, que lui croit qu'elle ne veut plus l'embrasser, alors qu'en
beaucoup
réalité...
Beaucoup de non-dits, là. Hein.
Voilà, il me semble que la barbe devient l'arbre qui cache la forêt, en effet.
Oui, parce qu'elle peut tout simplement lui dire, imagine de l'autre côté, la femme se laisse pousser la barbe. Eh bien, il va être l'homme pour être en droit.
C'est un peu moins facile.
Il va lui falloir du temps.
Oui,
hein.
Mais si
il y a des femmes qui ont déjà un potentiel, mais c'est pas...
Oui, mais c'est un peu de moustache qui pique. On peut comprendre l'homme qui se plaint de cela.
Je ne sais pas quelle femme vous rencontrez.
Ou si elle laisse, je sais pas, les poils sous les bras et que c'est la forêt, l'homme ne se gênerait pas de le dire. Alors que, pourquoi est-ce que tout d'un coup, la femme serait dans la retenue et n'oserait pas dire, écoute, ta barbe, elle pique quand tu m'embrasses la bouche. Puis on peut imaginer dans l'intimité... Une barbe dans une zone un peu plus sensible.
Non, mais c'est vrai, c'est la réalité. Je ne sais pas où vous voulez aller, moi, je n'ai pas envie d'y aller, Catherine.
Vous voyez, on a envie, on n'a pas envie. En l'occurrence, elle n'a pas envie de ce que ça provoque. Et donc, le mieux, c'est de le dire. En effet, vous avez raison, au nom de quoi une femme doit subir les désirs de l'autre, les désirs de fonctionnement de l'autre. Si ça ne convient pas, il suffit de le dire. Évidemment que c'est pas à partir de maintenant, c'est où tu te rases, où je ne t'embrasse plus. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis assez étonnée, parce que fondamentalement, une barbe pique moins qu'un homme qui s'est rasé le matin et dont la barbe a déjà un peu, ou la moustache a déjà un peu repoussé, qui est un poil beaucoup plus dru puisqu'il vient de sortir. Donc je crois que c'est autre chose qui se joue dans leur relation.
Au-delà de cette histoire de poil, je crois qu'il y a un gros problème de communication, non, surtout entre
voilà,
eux.
Voilà, ouais. Je crois que le problème du baiser est déjà un problème, c'est-à-dire une intimité, une tendresse partagée. Peut-être ce couple arrive à faire des choses, et notamment la sexualité, et comme par hasard, le baiser est mis à l'écart, comme si on avait besoin de se protéger de cette intimité-là, alors qu'on peut, de façon pratico-pratique, être s'adonner à la sexualité en se sentant moins impliqué dans la relation. Et souvent, le baiser raconte plus d'implication, c'est assez curieux d'ailleurs, que le coït lui-même.
Est-ce que dans cette situation, il est préférable de dire frontalement les choses, ta barbe, elle pique, ou bien de faire des petits sous-entendus, ou oui, ça picouille, d'être un peu enfantin, d'essayer de jouer de ça, ou d'y aller franco pour un sujet qui semble assez banal.
Je crois que si on dit « ouh, ça picouille », je crois qu'on va plutôt stimuler le plaisir de l'homme de picouiller. Hein. Donc je ne suis pas sûre que
ça
soit un
peu...
C'est
l'homme n'est pas très fut-fut par moment, c'est vrai, les messages secondaires...
J'aime quand vous êtes vraiment objectif comme ça.
Non, je pense qu'il vaut mieux, dire que je trouve ton poil de barbe un peu trop dru, c'est assez désagréable, ou embrasse-moi plus tendrement, parce que peut-être aussi c'est la façon qu'il a de l'embrasser. Ou alors peut-être faut-il lui offrir une huile pour la barbe, pour assouplir le poil. Enfin, en tout
ou
cas,
le raser en pleine nuit quand tu ne verras pas la tête.
Alors là, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Après, il ne faudra pas vous étonner qu'on ait des tonnes de questions sur des angoisses de castration. Je crois que ce n'est pas une bonne idée du
tout. Surtout qu'en cette période, malgré tout, on en rigole, mais les barbiers sont fermés, les coiffeurs aussi. Donc forcément, est-ce qu'il peut y avoir un peu du laisser-aller? Parce qu'en plus, le climat, l'ambiance est un peu morose. Donc...
Les esthéticiennes aussi sont fermées.
Non, mais c'est vrai, les esthéticiennes sont fermées. Donc, est-ce qu'il ne faut pas accepter pendant cette période?
Et ce n'est pas drôle du tout, excusez-moi.
Ce n'est pas drôle, mais oui, pour personne, c'est drôle, hein, je vous rassure.
Bon,
mais
il existe toujours, effectivement, quand même les rasoirs. Hein, et puis, les rasoirs électriques, avec des sabots, si on veut garder une certaine dimension. Je crois qu'il y a matière, mais il y a aussi, effectivement, comme vous le dites, un moment de laisser aller. Et peut-être de laisser aller dans la communication des couples. De laisser aller, et du coup, on tait les difficultés, et puis ça vient
picoter,
oui, peut-être la relation, en tout cas si ce n'est la bouche ou les lèvres, en tout cas la relation. Et je crois qu'il faut qu'on sache aussi se remonter les manches face, et avoir un peu de courage pour dire à l'autre ce qui est un peu dérangeant, ce qui ne me convient pas. Finalement, moi je te préfère sans barbe. Bon, je comprends que tu t'aimes avec la barbe, mais moi, je ne t'aime pas trop. De même que si lui ne l'aimait pas avec, je ne sais pas, une coiffure ou une façon de s'habiller, il ne s'en priverait pas, comme le disait très justement Jimmy. Je crois qu'il faut apprendre à se dire les choses. Si on veut être érotique et érotiser la relation, il faut se mettre au diapason les uns des autres. C'est un compromis à trouver, toujours dans les couples. Mais voilà, armons-nous de courage. Si on s'aime, a priori, ça peut être audible.
Merci beaucoup.
Le problème est ailleurs.
Catherine, pour tous ces conseils précieux, comme toujours. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec leur rendez-vous. C'est historiquement vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie.
C'est un scandale.
C'est un scandale. Oui, aujourd'hui, oui, trois scandaleux, Mathieu. Gustave Courbet qui a fait scandale avec l'origine du monde. Boris Vian qui a fait scandale avec J'irai cracher sur vos tombes. Et vous avez choisi aussi un Italien un peu scandaleux. Hein.
Oui, vous voyez les pubs La Paire, il n'y en a pas deux.
Oui,
oui, bah, c'est exactement l'inverse. Oliviero Toscani, celui qui faisait les pubs pour Benetton dans les années 90. Ça veut dire qu'à l'époque, on n'avait pas peur de choquer.
J'ai hâte. Merci pour ce beau programme. On sera à l'écoute avec le docteur Jimmy Mohamed. Et vous aussi, je vous le conseille, restez sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.